Aujourd'hui, donc, nous allons retrouver Bruno Lambert, les marcheurs de la Terre, qui vient nous présenter où ils en sont avec Posidonia, ce film de 52 minutes qui était en cours. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez, puisqu'il y a eu quelques petits problèmes techniques. Donc là, je suis très heureuse d'être à nouveau en régional pour recevoir mon invité. Il s'agit de Bruno Lambert. Il devait venir à deux. Malheureusement, il y a un contretemps pour Nelly Cars, mais ce n'est que partie remise pour l'avoir à nouveau dans notre studio. Bonjour Bruno.
Bonjour Odile, bonjour Tiffany.
Oui, bonjour Tiffany aussi.
Bonjour.
Donc Bruno Lambert, on vous connaît bien, mais on va encore vous resituer pour nos auditeurs lointains de la région sud-est. Vous êtes explorateur, aventurier, auteur, réalisateur, créateur des Marcheurs de la Terre, créé en 1995. On reverra en fin d'émission ce que sont les marcheurs de la Terre. Vous êtes un défenseur de la planète depuis toujours.
Depuis toujours, hein, c'est un rêve d'enfant, hein, tout simplement. Moi, petit, j'ai rêvé devant mes mentors qui étaient des gens comme le commandant Cousteau, comme Alain Bombard, comme Tabarly dans le domaine de la voile. Et rapidement, je me suis mis à l'escalade, à explorer la pleine nature. J'ai grimpé avec des grands noms de l'escalade, dont Patrick Edlinger, qui était donc dans le 04 aussi, il y a encore quelques années, qui est décédé. Et après, je me suis orienté sur l'accompagnement en montagne, donc très très jeune. Donc j'étais un des premiers diplômés d'État accompagnateur en montagne en France. J'avais 22 ans, donc ça nous ramène à...
À quelques 40 années.
Ans en arrière. Voilà, ça y est. Et du coup, plutôt que de continuer dans la voie strictement montagne, je me suis dit, je vais essayer de m'étaler et d'orienter mes compétences sur tout ce qu'il y a sur la planète, c'est-à-dire tous les milieux extrêmes, toutes les natures sauvages. Alors, ce qui fait que depuis toutes ces années, j'explore les forêts tropicales, les déserts, les banquises, les hautes montagnes, les zones humides, etc., etc., les mers et les océans. Je ne fais que ça. Au début, c'était pour accompagner des clients dans le domaine de l'accompagnement standard. Après, ça a été du trekking. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, le trekking, c'était des randonnées qui étaient très longues. Hein. C'était des trucs de 2-3 semaines, voire plus. Hein. Le terme, aujourd'hui, est utilisé très souvent pour faire une balade de 2 jours. Hein. Donc, c'est plus du tout la même chose. Et des expéditions commerciales. Là aussi, c'est important de resituer la terminologie parce qu'en fait, expédition commerciale, une expédition à l'époque, ça allait bien au-delà du trekking et on était à la limite de l'exploration de territoires vierges. Donc c'est allé très, très, très vite. Il faut savoir que 30, 40 ans en arrière, même encore maintenant, il existe encore des territoires qui n'ont jamais été foulés par la main de l'homme, j'ai envie de dire. Bon, et c'est pas plus mal. Et du coup, je me suis très vite orienté sur la véritable exploration. Et pour essayer d'expliquer un petit peu, je dirais, tout ce panel d'activités, quand on vit de l'exploration, on peut effectivement être soit médecin d'expédition, on peut être scientifique, chercheur, biologiste, ou alors écrivain, aventurier, réalisateur. Encore guide, conseiller technique avec le temps. Donc on devient entre guillemets l'expert qu'il faut consulter parce qu'en fait le temps travaille pour nous. Quand on est encore dans le circuit. Et c'est vrai que cette passion n'a jamais tari, quoi. Elle est présente encore aujourd'hui. Je pense qu'il y a peut-être plus de projets devant qu'il y en a derrière. Bon, ils ne seront pas tous réalisables, c'est impossible après, c'est évident. Par contre, la barre est mise très 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 haute. Et j'en profite parce qu'on en causait tout à l'heure avec Tiffany, dans les coulisses, on va dire. On parlait de plein de choses, de la vie. Et c'est vrai qu'à un moment donné, quand on passe 60 ans et quand on est parti sur la route des 70, on a tendance à nous mettre dans un sac où la vie est finie, la vie est foutue. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, avis à tous les auditeurs qui ont fait plein de choses dans leur vie, qui ont dépassé la soixantaine, il y a encore plein d'espoir et plein de choses à faire. Donc ça ne s'arrête pas là, bien au contraire. C'est un petit message qui n'a rien à voir avec l'environnement. Mais bon, voilà, j'y tiens un petit peu. Et donc cette passion, elle s'entretient. Et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'au début, on avance un petit peu sur la pointe des pieds. Quand on est dans le monde de l'aventure, très souvent, c'est dans l'aventure sportive. Et puis petit à petit, on apprend, on étudie les milieux qu'on parcourt, qu'on explore. Et au début, on est autodidacte, et puis après, on apprend avec les scientifiques qu'on rencontre, avec qui on travaille. Et ça, c'est une mine d'or, parce que les scientifiques sont des aventuriers. Et je pense qu'une fois de plus, j'aimerais leur rendre hommage. Ça, c'est clair. Donc, il faut les écouter. La dernière mission Posidonia donc, nous a permis de travailler donc, avec des passionnés, des scientifiques, des associations, autres. Et c'est vrai que ces gens-là, on travaille souvent dans l'ombre, aussi avec des petits moyens. Donc, ce sont réellement des aventuriers et ont beaucoup de mal à faire passer leur message. Soit parce qu'ils sont trop compliqués, soit parce qu'on ne leur laisse pas suffisamment de temps de parole. Et la relation, la collaboration entre les aventuriers et les scientifiques ne date pas d'hier. Nous, en fait, on se positionne en tant que vulgarisateur. Donc, d'où la nécessité de comprendre leur discipline. Ça, c'est capital. Et c'est vrai que cette collaboration, moi, j'incite aussi les gens à la développer. C'est-à-dire que les jeunes aventuriers, aujourd'hui, que ce soit des guides, des kayakistes, des skippers, des spéléos, etc., etc., je les invite à se rapprocher donc, des experts qui étudient leur milieu, leur environnement, pour pouvoir développer des collaborations et continuer ce travail, parce que c'est vraiment une activité à part entière. La vulgarisation scientifique à travers l'aventure, moi, je considère que c'est une activité. Et c'est le sens même des Marcheurs de la Terre, donc, comme vous le disiez tout à l'heure, créé en 1995 sur la banquise. Donc, 95, c'était un exploit, un record de vitesse au pôle Nord. Et donc, c'est en rentrant du pôle, en marchant. Donc, je marchais sur la planète. Je me suis dit, j'ai atteint le sommet de la planète. Et après, je me suis dit, maintenant, je vais marcher pour la planète. Voilà. Alors qu'avant, j'exerçais plus comme guide. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu l'histoire des Marcheurs de la Terre, qui marchent sur l'eau aussi, pour le coup, avec Posidonia.
Oui. Bruno Lambert, donc, on va revenir sur ce projet Posidonia. Voilà, c'est une algue. Hein,
C'est pas une algue.
C'est pas une algue.
Vous avez mal écouté la leçon. Là, c'est une plante à fleurs.
Une plante à fleurs.
Ouais, la Posidonie n'est pas une algue. Alors, c'est pas bien grave, mais en tout cas, c'est une espèce qui a un rôle capital dans l'équilibre, je dirais, écosystémique de l'ensemble du bassin méditerranéen.
Ça, j'avais bien retenu. Mais voilà,
mais c'est pas une algue.
Donc, c'est pas une algue. Mais en tout cas, c'est une plante très importante.
Elle est aussi capitale que les récifs coralliens ou que les forêts tropicales. Et c'est un petit peu la mal-aimée, je dirais, des espèces ambassadrices. Enfin, nous, on essaye d'en faire une espèce ambassadrice, également dans l'un des futurs films que je suis en train d'écrire. Tout simplement parce qu'elle n'est pas, comme on dit, moi j'ai un ami botaniste qui m'a dit qu'elle n'est pas très sexy. C'est vrai que ce n'est pas une rose. Ok, donc une Posidonie, c'est relativement sobre. Ok, mais par contre, elle détient les clés de très nombreux écosystèmes et habitats. Et il est très très important d'en parler parce qu'elle est foulée du pied par les estivants, elle est souvent arrachée par les ancres des plaisanciers. Elle est hercée sur les plages alors parce qu'elle est censée déranger les baigneurs alors qu'il y a 40 ans en arrière, les baigneurs s'en accommodaient largement et ce n'est pas du tout gênant. Voilà, donc il est temps de sauver la Posidonie. Sauver la Posidonie, c'est aussi sauver la Méditerranée.
Donc on va revenir à ce documentaire, à ce film documentaire que vous venez d'achever avec, on va rappeler Nelly Kars, bien sûr, avec qui vous travaillez en binôme depuis quelques années, qui a nagé pendant des kilomètres, je ne me rappelle plus combien, mais c'est
410,
voilà, 410, ouais. À travers la Méditerranée. Avec.
Voilà, alors Posidonia, c'est le projet typique des Marcheurs de la Terre, c'est-à-dire qu'en fait, on a associé une aventure sportive, un challenge relativement engagé, donc, c'est-à-dire Nelly, qui avait déjà nagé sur le lac de Paca, qu'on avait surnommé la Dame des Lacs, a nagé donc, de Marseille à Menton. Alors c'est une côte, si on suit le trait de côte, c'est une côte qui fait à peu près entre 700 et 800 km, donc on a coupé un petit peu, mais elle a quand même nagé 410 km en 5 ou 38 étapes, j'ai plus les chiffres en tête. Et pour ma part, je l'accompagnais en kayak, je m'occupais de la sécurité, des images, je dirais, nautiques et aériennes, pendant qu'elle faisait les images subaquatiques. Le but de cette aventure, c'était justement d'attirer l'attention du grand public sur la Méditerranée et l'ensemble de ses habitats et écosystèmes à travers la Posidonie. La Posidonie, on l'a compris, hein, c'est le nom latin scientifique de la Posidonie. Et d'en tirer un film, un projet éducatif. Et dans ce film, c'est surtout d'utiliser notre fil conducteur pour laisser la parole aux scientifiques, aux gestionnaires et aux associations donc, qui œuvrent, comme je le disais à 5 minutes, dans l'ombre très souvent, pour protéger non pas que la Posidonie, mais l'ensemble des écosystèmes marins. Voilà. Et le challenge a été réussi haut la main. Le film a été finalisé, on l'a finalisé plus rapidement que prévu. Il n'a pas encore eu de sortie officielle, mais c'est une histoire de quelques semaines, quelques mois à tout casser. Et par contre, il a déjà été retenu et inscrit sur différents festivals du pourtour méditerranéen, donc pas que français. Il a été également retenu, alors là c'est validé sur le Festival international de la plongée sous-marine, donc Galatea. On en avait parlé lors de la dernière émission. À noter que ce festival aura lieu donc au mois d'octobre et je suis ravi de savoir que le président d'honneur, ce sera donc Paul Watson. Voilà, le défenseur des cétacés chez Shepherd. Donc, pour nous, ça va être vraiment un grand plaisir et un honneur de partager donc, ces trois jours avec cette personnalité qu'on aime beaucoup, parce qu'on défend la même cause, chacun à son niveau et dans son domaine. Mais voilà.
Et, c'est quand ce festival ?
Ça, il me semble que ça doit être la troisième semaine d'octobre, à peu près. Voilà. Et après, donc, d'autres associations et fondations donc, nous ont déjà invités pour des interventions scolaires, des représentations publiques, pour parler également de la Posidonie auprès des décideurs, des politiques locaux, en compagnie des scientifiques qui sont dans le film. Donc, une fois plus, un grand merci à tous ces scientifiques, notamment le GIS Posidonie, qui a été créé, je crois, en 1982, et également toutes les associations, les particuliers donc, qui étaient derrière, donc Carcaran Environnement, qui nous a accueillis les bras ouverts, qui nous a managés, l'association SOS Grand Bleu, qui est assez connue pour la protection des cétacés, le Conservatoire du Littoral, et puis également des indépendants comme le Rando Marine, avec des plongeurs qui sont passionnés de milieux marins, comme Ludo Gallas, qu'on voit dans le film. Quoi. Voilà. Donc il y a beaucoup, beaucoup de monde dans ce film-là. Et une petite parenthèse aussi, c'est que là, avec Nelly, on est en train de travailler sur un second volet, je dirais, de la Posidonie. Mais cette fois-ci, on n'interviendra pas en tant qu'aventurier, mais par contre, les aventuriers, ce seront les scientifiques. Donc on va les mettre, on va les montrer dans leur challenge scientifique et des associations, donc pour montrer ce qu'ils font. Voilà. Et cette fois-ci, on focalisera un petit peu plus sur la Posidonie, on va essayer un petit peu de l'annoblir et d'en faire une espèce ambassadrice, comme je disais tout à l'heure. Voilà. Comme on peut le faire avec le dauphin ou l'ours polaire, ben, la Posidonie, ça va être l'ambassadrice de la Méditerranée.
Donc là, Nelly n'aura pas besoin de nager.
Non, alors Nelly...
C'est terminé le défi... Est-ce que vous avez des anecdotes, évidemment, certainement plein pour la réalisation de ce film
Alors, il y en a plein, mais pour revenir sur le prochain, Nelly n'aura peut-être pas besoin de nager, on va ouais. dire, mais par contre, elle va plonger. C'est-à-dire qu'elle a passé des qualifications de scaphandrier, donc de travailleurs sous-marins, pour pouvoir donc descendre encore plus bas avec les caméras, le matériel photo, pour pouvoir suivre en toute légalité les scientifiques sur les sites de réimplantation ou de restauration de la Posidonie. Voilà. Moi, ces qualifications, je ne les ai pas. Mmh. Donc, je resterai en surface et à faible profondeur en tant que plongeur lambda, on va dire, pour faire des images classiques. Par contre, donc, ça demande encore des nouvelles compétences que Nelly a passées.
Voilà. Incroyable, cette femme. On la salue au passage. Voilà.
Bon, là, je suis désolé, elle n'a pas pu venir. Et sur le film Posidonia, des anecdotes, on en a plein. Moi, j'ai envie de répéter une fois de plus que ce qui a été vraiment très séduisant sur le parce qu'on a navigué sur les quatre saisons. Hein, on va dire que sur les saisons hors touristiques, on a vu un joli littoral. Un littoral qui était certes très impacté depuis des décennies, mais par contre qui montrait, je dirais, des germes de redémarrage, de résilience. Et c'est le message qu'on veut essayer de faire passer maintenant dans tous nos films. C'est-à-dire que plutôt que de montrer ce qui a été massacré, il faut le montrer. Il faut le montrer, mais ce n'est pas nécessaire de focaliser uniquement pour alarmer et assombrir les esprits. On le montre parce qu'il est nécessaire de regarder ben, effectivement la partie sombre des réalités. Mais par contre, de l'autre côté, il existe plein de foyers qui montrent que la nature peut redémarrer si, au mieux, on lui fout la paix. Au pire, on l'aide un petit peu. Donc, on ne peut pas dissocier, je dirais maintenant, ces espaces de nature et cette résilience des milieux de l'opiniâtreté et de la résilience des hommes. C'est-à-dire que toutes ces assos, tous ces scientifiques sont là aussi pour assister les milieux. Et des milieux qui, eux, une fois qu'ils sont en bon état, nous rendent des services. Hein, ce qu'on appelle des services écosystémiques. Donc, pour rappel, la Posidonie, c'est le plus gros producteur d'oxygène de la Méditerranée. C'est avec le plancton, dont on parle très peu, C'est également l'un des plus gros puits de carbone, donc supérieur aux forêts tropicales. C'est une nurserie pratiquement pour toutes les espèces. Ça permet de fixer le sable, de fixer les côtes. Donc en gros, si on protège la Posidonie, on protège tous les milieux. Et en plus, on fait des économies. Donc ces économies, eh ben, quand les communes vont hercer des plages, quand elles vont ramener effectivement des blocs de cailloux, des montagnes, etc., si on fait le calcul du bilan carbone et du travail, bon, c'est considérable. De toute façon, la mer aura raison de ses digues, et, alors que la Posidonie, elle, est systématiquement régénérée. Donc c'est ce qu'on appelle des services écosystémiques. Il est vraiment capital que ce message passe. Et ça, ce sera l'objet. Alors on en a parlé dans le premier film Posidonia. Par contre, le prochain, qui s'appellera possiblement les fruits de la résilience, je pense. Ce n'est pas encore sûr. Donc, insistera sur ce volet scientifique et sur le travail des aventuriers. Voilà. Donc, pour revenir sur les anecdotes, bon, effectivement, on a trouvé des milieux qui étaient très sympas. On a rencontré des gens, des usagers et des riverains qui aiment réellement leur littoral et qui s'efforcent, en tant que personne, lambda, de faire ce qu'il faut. De ramasser ses poubelles, de ramasser les crottes de son chien, de profiter de tout ça. Et c'est vrai qu'on a là aussi trop souvent une vision, je dirais, un petit peu exacerbée du littoral en été, ce qui est une réalité. Les klaxons, les voitures, les portiques qui sont trop bas, plus de place des voitures, les gens qui se pourrissent sur les plages, etc., etc., les bateaux qui vous coupent en deux. C'est arrivé, je crois qu'on en avait parlé dans la dernière émission, mais c'est arrivé une fois du côté de, dans le massif de l'Estérel, où un Zodiac a failli percuter Nelly. Et là, pour le coup, je me suis interposé entre le Zodiac et Nelly. C'est moi qui ai percuté Nelly, donc ça l'a complètement sonné dans l'eau. Mais sinon, elle se faisait couper par les hélices du bateau. Voilà. Là, une fois de plus, c'est un civisme, on le voit partout. Et quitte à me répéter, la personne qui pilotait le Zodiac, c'était des locations de Zodiac sans permis, c'était un petit gamin d'une huitaine d'années, tout simplement. Mmh. Voilà. Donc cet incivisme maritime, estival, et c'est clair qu'on en a tous un petit peu marre, mais c'est le même qu'on peut trouver dans les grandes villes, etc. Mais ce n'est quand même pas la réalité d'une année sur le littoral, quoi. Hein. Il se passe beaucoup, beaucoup de belles choses. Alors cette période-là, c'est pareil. Y a des bateaux qui passent dans tous les sens. Il fait chaud. Les stations d'aspiration, des fois, n'arrivent plus et saturent. Donc, ce qui fait qu'il y a des rejets dans les fleuves côtiers, dans les cours d'eau côtiers. L'eau sent mauvais. L'eau est trouble. Et comme on le dit dans le film, on sent bien que là, la nature n'a plus sa place. C'est priorité à l'homme. Et ça, il faut que dans le futur, on arrive à le gérer. C'est pas possible. Voilà. Désengorger le littoral, ramener des gens peut-être un peu plus sur les plans d'eau intérieurs, en montagne, etc. etc. Trouver des réglementations qui ne condamnent pas trop les gens non plus, parce que c'est vrai que les gens sont en vacances et ils ont besoin de ça, mais vacances n'est pas incompatible avec respect des gens et du milieu, tout simplement. Voilà. Donc on a vu quand même des choses qui n'étaient pas très jolies l'été. Mais globalement, je trouve que c'est un très bon retour. Et on a vu des gens fascinants qui nous ont donc amenés sur leur site de travail, des biologistes, des assos, etc., etc., qui ne comptent pas leurs heures, qui sont en train de chercher des financements, comme nous, on va les chercher pour les films, tout simplement. Eux, c'est pour des chantiers de restauration, etc., etc. Et je trouve que parfois, c'est un travail assez ingrat, et c'est pour ça que je reviens peut-être pour la deuxième fois, là, depuis le début de l'émission, sur le travail de ces scientifiques de terrain qui méritent vraiment d'être écoutés. Que ce soit en mer, en rivière. Pendant des années, on a travaillé sur les cours d'eau de l'intérieur. Là, c'est pareil. On avait les mêmes personnes, mais je veux dire, sur les plans d'eau intérieurs, en montagne ou ailleurs. Donc, ils sont partout. Voilà. Voilà. C'était une mission qui était quand même assez prenante, fatigante, nerveusement. Parce que c'est 3 ans de préparation. Il faut savoir que pendant la préparation, il y a eu peut-être le double de temps de nager que le challenge proprement dit. Des coups de vent, des tempêtes, de la casse, il y en a comme dans toutes les aventures, même si pour le coup on revenait tous les soirs au bercail, entre guillemets, on dormait dans un van ou dans un camping, etc. Voilà, donc on n'était pas en itinérance comme sur une expédition polaire ou amazonienne.
Vous aviez trouvé des sponsors pour des nous sponsors, aider, parce que ça a un coût, toute cette préparation. Et...
On n'avait pas beaucoup de sponsors, donc le film a été coproduit par France Télévisions. Donc là, par contre, c'était un gros morceau, c'est évident, dans le cadre du projet Made in Doc. Donc, c'est-à-dire que c'est France Télévisions avec l'aide de la région, donc Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la région sud. Ensuite, on a eu des petits partenaires locaux, comme des campings, des associations qui nous ont offert des gratuités, offert des repas. Donc, des gens qui étaient passionnés aussi par leur métier et pourtant des gens qui vivent du tourisme, voilà, mais qui ont essayé de nous donner un petit coup de pouce. Et mine de rien, ça aide quand même à terminer le film, quoi, parce que c'est vrai que c'est quand même un très, très gros budget, quoi. Voilà, hein.
Donc le film va bientôt sortir quoi, sur la télé sur...
Alors il va d'abord, bon, vu qu'il est coproduit par France Télévisions, il est évident qu'il va pendant, je crois, 3 ans. Alors là, je ne peux pas y répondre, c'est Nelly qui aurait pu vous répondre plus précisément, mais je crois qu'effectivement, ils ont une exclusivité sur 3 ans. Donc sur France Télévisions, en général, France Télévisions, ce n'est pas que France 3, pas 4, hein. C'est la 5, c'est toutes les régions, etc. Et France Télévisions nous octroie donc le droit d'utiliser ce film dans les festivals, dans les conférences. Donc on peut dire que là aussi, mais mine de rien, ils ne sont pas obligés de le faire. Et bah, ils contribuent à véhiculer ce message. Donc ça, c'est aussi important, quoi.
Parce que généralement, vous travaillez après dans les écoles, vous alliez présenter aussi...
Alors les écoles, c'est vrai que les Marcheurs de la Terre font des écoles depuis toujours. Dans les années 90, début 2000, on en faisait beaucoup, beaucoup, donc avant que je travaille avec Nelly. Et bah, d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est une anecdote, je crois qu'on en a parlé la dernière fois, mais Nelly m'a dit que je l'ai rencontrée quand elle était à l'école.
Ah bon ?
Ou qu'elle m'avait vue à la télé quand elle avait 7 ou 8 ans. Voilà, alors comment oui, journée du pôle, un truc comme ça. Et ça l'a fait rêver, et puis là, ben, depuis 13 ans, on travaille ensemble. Donc ça, c'est rigolo, quoi.
Ouais. Donc, ouais, c'est beau. Elle avait déjà cette...
Il vaut mieux l'avoir dès le départ. Hein.
Ouais.
C'est une passion d'enfant, les passions d'enfant, ce sont des valeurs sûres. Donc les parents ont souvent peur de développer les passions des enfants, parce que c'est pas un métier, c'est pas rentable, tu vas galérer, patati et patata, c'est pas sérieux. Et le regard des gens est encore très, très pesant. J'ai envie de dire que là aussi, ben, c'est un deuxième petit message aux parents. Si vous avez des enfants passionnés par la musique, par la peinture, par l'art, par le cinéma, par l'aventure, par l'escalade, par la spéléo et tout, mais poussez-les dedans. Je veux dire, c'est pas parce qu'on fait pas des hautes études universitaires qu'il n'existe pas de formation. Et toutes ces formations bout à bout, ça vous donne des niveaux mais considérables. Il y a des gens qui ont des bacs plus 20, plus 25, qui ont un BEPS. Voilà, moi, je me retrouve, paraît-il, avec un bac plus 10, un truc comme ça. Et j'ai même pas le bac, pour vous dire. C'est toujours pareil. Et moi, je l'ai fait avec mes propres enfants. Bon, bah, ils sont dans le dessin, ils sont dans la peinture, ils sont dans l'aventure. Mmh. Voilà. Et la musique. Surtout la musique. Voilà. Donc, il faut pousser les gamins là-dedans, quoi. C'est capital. Parce qu'en fait, faut oublier que si on continue à penser qu'il faut... que de l'argent pour rendre heureux, on est foutu. Qu'est-ce que tu fais avec ton argent ? Eh ben, je vais me payer des vacances, je vais faire de la musique et du bateau. Tu sais que tu peux être skipper et musicien ? Voilà. Bon, ça existe aussi. Et il faut aller là-dedans. On sort encore de l'aventure, mais pour moi, c'est pas dissociable.
Bruno Lambert, on va parler de vos projets à venir maintenant. Après cette sortie de Posidonia, ce film documentaire de 52 minutes, donc on pourra voir à la télévision bientôt.
Conférences et autres. Ouais. Ouais.
Vous avez un projet en Islande.
Alors ce projet a commencé il y a déjà 3 ans, parce qu'en fait les projets se chevauchent. Il faut savoir qu'un projet d'expédition en lui-même, c'est un projet qui demande 2 à 3 ans de préparation. Quand on rajoute un film sur une expédition... le temps d'écrire le dossier documentaire, de trouver des financements, si on les trouve, parce que des fois on les a pas. Ça peut prendre aussi jusqu'à 2-3 ans. Donc en fait, il faut arriver à superposer toutes ces préparations, toutes ces logistiques, sachant qu'on est en train à peine d'exploiter le projet qui est finalisé et qu'il faut déjà voir plus loin. Donc en fait, on est tout le temps sur 2-3 projets de fond. Ça, c'est capital. Donc depuis 3 ans, on travaille sur un territoire en Islande. Alors l'Islande est très connue pour ses glaciers géants, ses geysers et compagnie, qui sont surfaits et qui sont donc surfréquentés par les touristes. Et ça leur pose d'ailleurs un problème, parce que c'est une île qui est très pure, hein, très propre et qui a très peu d'infrastructures. Mais ce n'est pas du tout dans ce secteur-là qu'on travaille. Nous, on travaille dans un territoire qui s'appelle le Hornstrandir. Le Hornstrandir, C'est une péninsule qui s'avance en direction du Groenland, qui se trouve donc à la lisière du cercle polaire arctique. On est sur une zone donc polaire, on retrouve les pôles, qui a été abandonnée depuis la moitié du siècle dernier. On va dire que dans les années 50, les gens sont partis et les derniers habitants ont quitté les lieux, je crois. Il y en avait encore une toute petite poignée dans les années 70, un truc comme ça. Donc cette péninsule-là a la particularité d'être coupée du reste de l'Islande par un glacier géant, dont je ne prononcerai pas le nom parce que c'est imprononçable. Voilà. Ce qui fait que c'est une péninsule, mais on a l'impression que c'est une île. Quand on est sur cette île, il n'y a plus d'accès. C'est-à-dire que le seul moyen pour se rendre sur ce territoire, c'est en bateau, sur les 2 mois d'été uniquement. Après, c'est fortement réglementé, même là, en été. Et généralement, les gens se font dropper sur des sites de rando. Ils restent sur place un jour ou deux, et puis après, ils repartent. En fait, nous, notre objectif, c'est de faire une exploration complète de ce territoire sur 3 saisons. Alors, 3 saisons, ça fait plusieurs mois. Mais après, ça va faire quelque chose comme peut-être 45 jours d'exploration à proprement parler sur le territoire en autonomie complète avec des sacs de 30 kilos, voire plus. Voilà. Donc, il faut savoir que c'est un territoire qui est très froid, très venté, avec des tempêtes régulières, avec des crues systématiques. On est très souvent dans l'eau en train de traverser des torrents qui se jettent directement dans la mer. Donc, on pourrait dire que ce sont des micro-fleuves côtiers, quoi, avec des estuaires qui font parfois plusieurs centaines de mètres. Donc, il faut les traverser, donc dans l'eau. Si on veut éviter ces grands estuaires et de faire 500 mètres dans l'eau avec de l'eau jusqu'aux genoux, ben on va aller plus loin en montagne. Mais on va se retrouver dans un torrent avec de l'eau jusqu'au nombril et qui va pousser beaucoup plus. Donc c'est extrêmement difficile, c'est dangereux. C'est un territoire qui est très escarpé aussi, puisqu'en fait c'est un territoire de fjords. Et pour ceux qui connaissent les fjords, ben c'est pas facile, parce qu'en fait il y a des petites passes qui nous font passer entre 2 falaises sur des petites vires. Et ben là, si on plonge, il y a 300 mètres dessous, quoi. Donc c'est très, très, très délicat. Donc pour moi, c'est un territoire de trek parce que c'est pas si grand que ça. Mais je pars dans l'esprit d'une véritable expédition. Voilà. Alors, on a déjà fait 2 grandes missions dans l'Austrandir. Là, ça va être la 3e. On a déjà tourné pas mal d'images. Hein. Le dossier documentaire va être proposé à différentes télévisions. Bon, bah, là, notamment à Arte, sous peu d'ailleurs. Bah, c'est d'actualité. C'est dans la semaine, hein, tout simplement. Et le but, ben, c'est un petit peu de faire comme dans Posidonia, c'est-à-dire qu'on va utiliser notre itinérance comme fil conducteur, parce qu'on va quand même marcher beaucoup, dans des conditions vraiment très difficiles. Et on va essayer donc d'interroger les différents acteurs de l'Austrandir. Il n'y en a pas tant que ça. Il y a quelques agences spécialisées dans le tourisme donc naturaliste, le tourisme scientifique. Il y a des scientifiques, il y a des rangers. Et il y a encore quelques habitants, je dirais, qui sont donc les descendants, les héritiers, je dirais, des anciens habitants de l'Austrandir, qui ont des maisons de famille, des terrains, qui peuvent utiliser 1, 2, 3 jours, voire un petit peu plus, en fait, selon les héritiers, le nombre d'héritiers, parce qu'en fait, l'usage de la maison est divisé par le nombre d'héritiers. Alors celui qui est tout seul, ben, il aura la chance d'y rester pendant 2 mois s'il veut y aller. Par contre, quand ils sont 15, ben voilà, ce sera toujours chacun, quoi. Bon. Et ces gens-là, ben, donc, même s'ils sont plus réellement habitants de l'Austrandir, bon, sont très très fiers de leurs origines, parce que c'est vrai que le foyer humain de l'Austrandir, c'était des gens qui avaient des capacités physiques et psychologiques hors normes, quoi. Bon, déjà, c'est 6 mois d'hiver, ben, pas complètement 6 mois d'hiver, parce qu'on n'est pas au pôle, on est au cercle polaire, on va dire 3 mois et demi, 4 mois dans le noir. Bon, un été qui est quand même très frileux. Et des conditions de survie qui sont considérables. Donc c'était des gens qui pêchaient, des gens qui allaient récolter les œufs dans les falaises. Donc des falaises qui font jusqu'à 500 mètres de haut. On est quand même sur les plus hautes falaises d'Europe. Donc c'est considérable, qui abrite près de 2 millions d'oiseaux. Donc c'est tous les migrateurs se donnent rendez-vous là-bas. Donc c'est un pays qui crie, qui piaille. C'est fabuleux. Donc il y a des phoques sur le littoral, il y a des baleines au large. Et puis après, le roi de l'Austrandir, donc l'Austrandir a lui aussi une espèce ambassadrice, j'en parlais tout à l'heure pour la Posidonie, c'est le renard bleu, le renard polaire. Voilà. Le petit renard bleu, qui est chassé par ailleurs sur l'ensemble du territoire polaire, est protégé sur ce secteur-là depuis 96 ou 97. Voilà. Et ce qui fait qu'il est devenu le roi du Haut-Sandir. Et c'est un territoire qui attire de nombreux photographes et réalisateurs naturalistes, justement, parce qu'on peut accéder pas trop difficilement, on va dire, donc au renard. Là aussi, je le répète à chaque fois, mais on a vu des professionnels de l'image qui ne respectaient pas les distances de sécurité. Il faut savoir que quand on approche un animal sauvage, pour ne pas le perturber dans ses mœurs, dans sa biologie, on doit garder une distance de sécurité. Alors, ce n'est pas tant qu'il va vous mordre, c'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, si on voit un renard qui fait des allers-retours avec un petit poisson dans la bouche, bah, tout simplement, c'est qu'il va nourrir ses petits. Voilà, donc si on s'approche trop près, eh ben, il faut savoir que sur 5 renardeaux, dans des conditions optimales, il y en a un qui survit. Donc là aussi, il faut être très très prudent. Mais ça, on en parlera aussi dans le film. Quoi. Mmh. Voilà. Donc je le répète, notre itinérance va être ponctuée donc, dans le récit final du documentaire par les interventions de ces scientifiques et donc de ces descendants. Le but étant de démontrer une fois de plus, hein, comme je le disais sur Posidonia, que la nature reprend très 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 vite ses droits, à petite et à grande échelle. Donc on le sait, les scientifiques le savent. On en parle, mais j'ai pas vraiment l'impression que les gens s'en rendent réellement compte. C'est-à-dire que chacun à son échelle, dans son jardin, voilà. Si à un moment donné, on se dit, voilà, on a 15 mètres carrés, on n'y touche plus. Et on laisse la nature recoloniser. La nature, c'est pas spécialement des grosses espèces, hein. C'est des graminées, c'est des orties, c'est des insectes, etc., etc. Elle reprend sa place. Et c'est pareil à l'échelle d'une péninsule, voire l'échelle d'une mer. Donc, et le défi, le challenge de l'humanité, ben c'est celui-là de toute façon. Quelle que soit l'échelle, il va falloir qu'on arrive donc non plus systématiquement à restaurer les sites, mais d'arrêter de les dégrader. Parce que comme on en parlait tout à l'heure, ça coûte beaucoup plus cher de réparer ce qui a été donc esquinté que de protéger. Et ça, c'est l'un des plus gros paradoxes de la relation homme-nature. Parce qu'on le sait. Avant, on ne savait pas. Mais depuis que les scientifiques, au début, nous alertent et nous informent, ça fait quand même un petit bout de temps, on le sait. Et pourtant, on continue encore à dégrader et à réparer après. Voilà, avec des grands slogans très, très accrocheurs et très hypocrites aussi.
Tiffany, est-ce que tu as des questions pour Bruno Lambert ?
Mais on parle de différentes sources de pollution dans le documentaire de Posidonia. Est-ce que vous voulez revenir ? Parce que là, on pense, je ne sais pas, à pollution... En termes de tourisme, mais il y a aussi, je ne sais pas, par exemple, tout ce qui est invisible, pollution invisible.
Alors la pollution invisible, oui, effectivement.
Pollution sonore.
Voilà. Alors là, on va plutôt parler de dégradation. Donc, dans ce panel de dégradation, on va dire que le top 5, ça va être le réchauffement. Oui et non. Le réchauffement va entraîner une acidification de l'eau, mais la Méditerranée est quand même relativement préservée. Et étonnamment, si on prend l'exemple de la canicule de 2022, donc qui a esquinté et impacté de nombreux écosystèmes et qui a donc tué de nombreuses gorgones. Donc la gorgone est un organisme sous-marin assez proche du corail, qui a beaucoup souffert de ce qu'on appelle les canicules sous-marines. Et bien, il faut savoir que ces canicules sous-marines sont à l'origine d'une explosion de la floraison des herbiers de Posidonie, donc de la fructification. Voilà. Donc quelque part, c'est vrai que le réchauffement fait beaucoup de mal, mais des fois, il y a des espèces qui en bénéficient et qui peuvent élargir l'horaire de répartition. Voilà. Mais globalement, le réchauffement, effectivement, va entraîner une modification, je dirais, de la chimie de la Méditerranée. Ça ne se voit pas, hein, c'est évident. Mais par contre, ça impacte les organismes. Après, il y a des pollutions qui sont beaucoup plus visibles ou odorantes. Hein. Donc aujourd'hui, heureusement, la majorité des communes de littoral sont équipées, petites et grosses communes, bon, les grosses, c'est évident, elles le sont, de stations de dépollution, donc ce qu'on appelait de stations d'épuration. Voilà. Et c'est une excellente chose. Mais quand on arrive au pic de l'été, il faut savoir que la population est multipliée par, je ne sais pas, je ne vais pas dire de bêtises, mais elle a décuplé largement, la même centuplée peut-être. Je n'ai plus les chiffres en tête, hein, désolé. Mais tous ces gens-là vont consommer de la nourriture, de l'eau, de l'énergie, et vont évacuer. Donc, sans rentrer en détail, on va se rendre compte qu'effectivement, les stations d'épuration qui sont suffisantes donc, pour les agglomérations avec un nombre d'habitants moyen saturent. Et qui plus est, ce qui se passe, c'est quand on arrive sur la fin de l'été, début de l'automne, il y a des très très gros orages qui font que les cours d'eau vont multiplier leur débit et les stations vont saturer. Donc il va y avoir un apport de pollution qui passe entre les mailles et qui part directement dans la mer. Ça, c'est visible, ça sent mauvais. Ensuite, il y a les pollutions chimiques visibles. C'est-à-dire que moi, j'aime bien dire que quand j'étais gamin, j'étais à la génération des pieds mazoutés. Quand on allait à la mer, donc quand on voyait les Posidonies, alors effectivement, elles étaient là, il y avait des banquettes, c'était super, il y avait des tunnels dans les banquettes et tout. Par contre, très souvent, on sortait de l'eau, on avait des pieds noirs. Plein de mazout partout. Aujourd'hui, c'est fini, ça. Donc c'est une bonne chose. Par contre, la pollution chimique, elle existe quand même. Il y a une autre pollution dont on parle très peu, sauf dans les réseaux très spécialisés, c'est la pollution sonore, la pollution acoustique. Cette pollution, elle est considérable. C'est-à-dire que, pour faire référence au titre du film du commandant Cousteau, Le monde du silence, c'est pas le monde du silence. C'est-à-dire que sous l'eau, on entend énormément de bruit. Et tous les organismes sous-marins, surtout les cétacés, qui sont très proches de lui, ont besoin donc de communiquer par écholocation. C'est-à-dire qu'ils envoient effectivement des cris, des claquements, etc., etc., qu'ils peuvent entendre à des dizaines, des centaines de kilomètres parfois. Et en fait, la pollution sonore va les désorienter. Alors, la pollution sonore, ça peut être effectivement, on peut imaginer les sous-marins nucléaires qui sont très, très, très profonds, les essais militaires, les explosions sous-marines, mais également toute la pollution de surface. Voilà. Et quand on passe sur le littoral français, PACA, en été, de toute façon, on n'entend qu'un bourdonnement. Ça bourdonne, c'est les moteurs. Ces moteurs. Donc de l'aube au crépuscule, on entend des moteurs. Et tout ça, ça perturbe tous les organismes marins. Ça, il faut quand même le savoir, au moins animaux. Après, on peut parler de dégradation physique et mécanique. C'est-à-dire que la Posidonie, comme beaucoup de plantes subaquatiques et d'algues, va subir donc des arrachages mécaniques. Alors, ces arrachages, généralement, c'est provoqué par les ancres des navires de plaisance. Alors le navire de plaisance, ça peut commencer par un petit zodiac de 3,50 m qui va balancer l'ancre dans un herbier et qui va la tirer. Qu'est-ce qui se passe? Au bout de l'ancre, on se rend compte qu'il y a une touffe de Posidonie. Ok, c'est peut-être pas dramatique. Par contre, ce qu'on appelle la grande plaisance, avec des yachts d'une taille considérable, quand ils vont lever l'ancre, ils vont créer un sillage dans la Posidonie semblable à un sillage d'un tracteur avec une charrue. C'est exactement la même chose. Il faut savoir que la Posidonie va avancer d'un mètre par siècle. Voilà. Donc, et lever une ancre, ça prendra un quart d'heure pour un gros bateau comme ça. Pour réparer ce quart d'heure-là, si la tranchée fait 30 mètres linéaires et 1 mètre de large, le compte est facile, quoi. Voilà. Donc, effectivement, des nuisances ne manquent pas. Mais par contre, il y a aussi beaucoup de pistes de solutions.
Et est-ce qu'il y a des outils pédagogiques que vous mettez en place, en particulier dans les ateliers, ça sous forme de ciné-débat peut-être?
Alors nous, on ne peut pas tout faire. Nous, on est dans les ciné-débats, c'est-à-dire que pour les adultes ou les élèves d'un certain âge, on va utiliser le film, donc le 52 minutes. Généralement, quand le pass culture était encore opérationnel, donc on envoyait donc aux élèves le film en amont avec un petit document pédagogique sur lequel ils pouvaient travailler. Aujourd'hui, malheureusement, ce dispositif est à l'arrêt. On ne peut pas le faire. Et après, donc, quand on intervient sur les festivals, quand on accueille des classes ou quand on va directement dans la classe, on utilise des tout petits clips. Et c'est très, très intéressant parce qu'initialement, ces clips, c'était juste pour alimenter les réseaux sociaux. Et en fait, on se rend compte que c'est fabuleux parce qu'en fait, le clip va durer 2-3 minutes et chaque clip a une thématique majeure. Par exemple, moi, j'aime parler du petit poulpe, en fait, qui va s'emparer d'une caméra. Et en fait, qu'est-ce que vous voyez? Et là, les gamins, tous les doigts se lèvent. Pourquoi? D'abord parce qu'ils ont été séduits par le poulpe. Étonnamment, ils prennent en affection. On n'entend pas de « bah ». Voilà. Et ça nous permet effectivement de parler bien sûr de l'espèce, mais surtout de parler de l'intelligence animale, tout simplement. Donc on a plein de petits thèmes comme ça, et ça plaît énormément, et on arrive à tenir jusqu'à 1h30, 2h avec une série de petits clips. Et après, il y a donc les CPIE, les centres de formation en environnement, tout ça, qui ont également des outils, des plaquettes pédagogiques et tout. Il y a donc les parcs nationaux qui mettent aussi des outils en ligne. Donc chacun essaye, je dirais, d'amener à sa façon et avec ses moyens, ses propres outils, quoi.
Bruno Lambert, merci. Je pense qu'il est l'heure de nous quitter déjà.
Merci à vous, une fois
et
de plus.
Et puis, on peut retrouver votre actualité. Alors, il y a plusieurs sites Facebook.
Voilà.
Il y a Octopus. Avec...
Il y a Octopus Productions et puis il y a le site des Marcheurs de la Terre. Et d'ailleurs, à ce sujet, il y a le clip, le teaser du film Ressentir qui a été mis en ligne il y a 2-3 jours. Là. Et ça permet de regarder des petits renardos et de voir des beaux paysages. Quoi.
Merci, au revoir.
Merci à vous, au revoir.